une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine, donc une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de pleurites vaginaux.
Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire?
Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer et finalement, après un bilan, on va faire la glycémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et va conclure à un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre qu'elle fait le diabète gestationnel.
Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour le fœtus, vous savez, l'effet de cycle peut amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme.
Quelles peuvent être les conséquences?
Ça peut vous amener à des avortements ou carrément à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie?
Cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperglycémie fœtale, fœto-maternel ou materno-fœtal, qui va transiter vers l'enfant et cela pourra induire à la longue une souffrance fœtale. Cette fois-là, c'est une souffrance fœtale chronique par intoxication due au glucose.
Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à la mort?
Ça peut aussi créer une mort fœtale in utero, ce qu'on appelle mort subite. Surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glycogénie ou une polyurie fœtale qui va être responsable d'excès d'eau ou d'une polyhydramnios. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement?
Lors de l'accouchement, par exemple, l'enfant qui va naître très gros, ce qu'on appelle un macrosome fœtal, ça peut avoir des répercussions lors de la naissance. Si l'enfant est trop gros, il peut avoir, lors de son passage dans les voies génitales, là, l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sortie, ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plexus brachial. Il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
C'est justement ça, parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications?
La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, la femme peut entrer en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme?
Comme je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas des césariennes, l'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures et des parties molles. Et même l'utérus là, qui est trop gros, va amener à des atonies utérines et parfois aussi à des hémorragies de postpartum.
Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à naître. Alphonse Boaki de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents rénaux. Donc, il faut un suivi après l'accouchement parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
Grady Bieka Mutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel?
Oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes. Principalement, deux volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires.
Quel genre de conseils?
Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation des sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi c'est faire l'activité physique, faire une marche, faire plus des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs, par exemple régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages, ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même l'environnement de la femme.
Docteur, quel est le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux.
Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé?
Ces groupes de médicaments, des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec pincette parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du fœtus qui est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperglycémie, qui est un macrosome, qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux. Chez l'enfant, ça risque de passer au niveau de lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques oraux, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser les taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques oraux, de l'influence chez l'enfant. Donc, ça peut créer des hypoglycémies chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications, on les prend en charge médicalement.
C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Kéba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel? Est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel?
Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qui a des antécédents de diabète dans la famille et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme, il fait souvent exercice physique, il ne mange pas avec les bikes. Il programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de faire le diabète gestationnel.
Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est une consultation normale. Mais seulement, la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe souvent le diabète pendant la grossesse.
Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous exposez. C'est comme ça que, autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes.
Merci Dr. Kéba. Pour finir notre interview, un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, C'est seulement, ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elles constatent qu'elles n'ont plus de règles, elles doivent se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ses peines. Et lors de ces peines, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
Merci beaucoup, docteur Keba, de nous avoir accordé cette interview.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la maternité est une période gratifiante pour beaucoup de femmes, mais elle peut conduire à de sérieux problèmes de santé mentale chez certaines. On en parle. Le docteur Sarah Boudromillé, médecin au Kenya, explique l'impact de la grossesse sur la santé mentale de certaines femmes et ce qui doit être fait pour le bien-être des nouvelles mamans. Diagnostiquer le cancer du poumon avec exactitude et à un stade plus précoce. C'est ce qu'offre un robot dans un centre de santé à Burlingham, en Californie. De plus, des chiens apportent du réconfort aux voyageurs stressés à l'aéroport international d'Istanbul. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Devenir maman est souvent une expérience joyeuse et enrichissante, mais ceci n'est pas le cas pour de nombreuses mères qui font face à des problèmes de santé mentale pendant et après la grossesse. Durant cette période, le corps et les hormones de la femme subissent des changements qui peuvent déclencher diverses émotions. Selon le Centre d'obstétrique et de gynécologie de Raleigh, en Caroline du Nord, l'anxiété, la dépression postnatale, la culpabilité et l'isolement sont des défis auxquels certaines mamans sont confrontées. Les femmes qui ont des antécédents de dépression, de stress, d'abus ou qui ont peu de soutien social sont particulièrement à risque. Partons au Nigeria, à la rencontre de Kuluwa Yusuf Moussa, résidente à Abuja. Cette mère de deux enfants décrit son expérience de la maternité comme des montagnes russes émotionnelles. Le récit est de Jenny Niwa.
Je m'appelle Kuluwa Yusuf Moussa et je suis mère de deux enfants. Mon expérience de la maternité est remplie de nombreux défis et de beaucoup de joie. Lorsque vous regardez en arrière, pendant la période de grossesse, vous avez dû faire face à de nombreux défis, à la maladie, aux nausées matinales, jusqu'au moment de l'accouchement, aux nuits blanches. Mais lorsque vous regardez le bébé, la joie efface la plupart des défis. Ce qui me rend malheureuse pendant cette période, c'est le manque de soutien. Prenons l'exemple des Igbo et des Yoruba. Lorsqu'elles sont alitées, leurs proches viennent et restent avec elles. Elles se reposent suffisamment, elles dorment bien. Ce n'est pas le cas pour nous, les habitants du Nord. La plupart des membres de la famille, en particulier ceux du côté du mari, disent « Tu n'es pas la première femme à donner naissance à un enfant. Pourquoi te plains-tu des tâches ménagères ?» C'est la paresse qui est à l'origine de toutes ces choses. Ce dont nous avons besoin, c'est d'amour et de soutien pendant cette période. Mon conseil aux femmes qui viennent d'entrer dans la maternité est qu'elles doivent prendre soin d'elles. Ne pensez pas que parce que vous êtes mère ou que votre bébé pleure, vous n'avez pas de temps pour vous. Ne pensez pas que vous n'avez pas le temps de prendre un bain ou de prendre soin de vous. Ne quittez pas votre maison brutalement, même si vous n'avez personne pour vous aider. Utilisez le peu de temps dont vous disposez. Rendez-vous heureuse. Encouragez-vous. Demandez conseil. Ne restez pas silencieuse à endurer la douleur toute seule. Si votre bébé pleure ou si vous croyez qu'il a de la fièvre, cherchez des conseils auprès de personnes ayant l'expérience de la maternité. Nous disposons aujourd'hui de médias sociaux. Lorsque vous remarquez un changement, il vous suffit de taper « S'il vous plaît, comment puis-je gérer cela ?» Avant même de vous en rendre compte, vous recevrez de nombreux commentaires et vous serez soulagée par cette communication au lieu de rester silencieuse et d'endurer tout cela toute seule. Avant que vous ne le réalisiez, c'est ce qui vous conduira à la dépression postpartum.
Si vous êtes maman, comment prenez-vous soin de votre santé mentale et physique et quels sont les défis que vous avez rencontrés durant la maternité? Voici quelques réactions dans les rues de Kinshasa en RDC.
Le fait de devenir mère, ça, c'est une modification que subit une femme depuis la conception jusqu'à la naissance. Alors ça amène à vous une attitude différente de lorsque vous n'étiez pas mère. Vous devenez responsable envers vous-même et envers l'enfant qui naîtra.
Quand vous êtes maman, vous avez des enfants, il faut le nourrir, il faut le vêtir, il faut les instruire, que les enfants étudient. Et il faut bien les garder, l'éducation des enfants aussi, il faut bien les préserver. C'est ça le défi que chaque maman a.
En tant que mère, vous devez veiller à ce que vous ayez une santé mentale saine pour ne pas impacter l'enfant. Parce que le bien-être de l'enfant dépend de votre santé mentale. Il faut vraiment veiller à ce que vous ayez une santé mentale saine pour le bien-être de l'enfant.
La mentale, c'est ce qui nous fait vivre. Je dois veiller à cela. Je ne dois pas être trop surchauffée. Je dois être posée, bien gérer mon mental. Puisque c'est ce qui fait que je puisse gérer mes affaires.
En tant que mère, je me suis dit, j'ai eu des enfants. À mon âge, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et je dois très bien les éduquer. Les enfants sont nourris, les enfants sont vêtus, les enfants sont allés à l'école, ils ont terminé, maintenant ils vont commencer à faire leur vie et moi, en tant que mère, je me repose. Parce qu'à mon âge ici, je ne peux pas encore aller éduquer les enfants, tout ça, faire ça. Ce que j'ai fait, j'ai vu que c'était beau, c'était bien.
Vous devez vous priver de votre jouissance, de votre certains droits, vous les sacrifiez au profit des enfants. Il y a des choses que vous devez faire, vous ne les faites plus en tant que mère, en tant que parent. Il y a des endroits que vous devriez fréquenter, aller, vous n'arrivez plus à le faire à cause de l'amour que vous avez pour l'enfant parce que l'enfant veut toujours vous voir à ses côtés, l'enfant veut votre attention. Donc vous avez plus l'intérêt de l'enfant qui prime sur votre intérêt, vous, en tant que mère. Donc il y a des défis nombreux, mais parmi tant d'autres, c'est d'abord la privation, les sacrifices.
Le docteur Sarah Boudromiye est médecin généraliste au Hospital Care à Nairobi, au Kenya. Elle explique certaines réalités auxquelles sont confrontées les mamans durant la période de la grossesse à la naissance, ainsi que certaines implications du point de vue de la santé mentale.
La maternité est considérée comme un événement très joyeux et très excitant parce que, bien sûr, nous savons tous qu'en fin de compte, le désir du bébé va se réaliser et nous sommes tous excités. La famille est enthousiaste. Commençons tout d'abord par la période précédant la grossesse. La façon dont la grossesse s'est déroulée, certaines grossesses ayant été pratiquement non désirées, ont un impact très important sur la façon dont la grossesse se déroulera et sur la façon dont la mère l'acceptera et surtout sur la façon dont elle mènera à bien le parcours des 9 mois. La deuxième chose la plus importante est que la grossesse est associée à de nombreux changements. Il y a ce qu'on appelle les changements physiologiques par lesquels le corps essaie de s'adapter à la nouvelle personne. La santé mentale est un élément très important de la grossesse de la mère. Actuellement, l'OMS recommande un dépistage de la santé mentale chez les femmes enceintes et plus particulièrement chez les femmes en postpartum au cours des 8 premières semaines de vie au moins, afin de savoir comment la mère vit sa grossesse, sa santé mentale et les sentiments qui l'entourent. L'OMS propose le dépistage de maladies telles que la dépression postpartum, qu'il est très important de prendre en compte, en particulier au cours des premières semaines de la vie, afin de la détecter suffisamment tôt. La dépression postpartum est malheureusement une réalité en Afrique, car l'OMS affirme que jusqu'à 15,16% des femmes enceintes et jusqu'à 20% des femmes en postpartum peuvent souffrir de dépression postpartum ou de n'importe quel type de stress lié à une maladie mentale. En tant que professionnels de la santé, nous devons examiner les mères à chaque fois qu'elles viennent à l'hôpital pour vérifier comment elles se sentent. Et nous les encourageons à parler dès qu'elles ressentent quoi que ce soit en rapport avec la dépression postpartum. Nous sensibilisons également les mères, nous les encourageons aussi à toujours parler, à toujours s'ouvrir et à ne jamais cacher, car la dépression postpartum n'est pas un tabou. Ce n'est pas une honte, c'est quelque chose qui arrive et qui peut être traité. Et la mère se remettra en bonne santé et se portera très bien avec son bébé.
Healthy and very well with her baby. Aux États-Unis, environ 125 000 personnes mourront du cancer du poumon en 2024, selon l'Institut national du cancer. Au centre médical Mills Peninsula de Sutter Health à Burlingame, en Californie, un robot permet un diagnostic encore plus précis de la maladie. Récit Blanche Sanou.
Au centre médical Mills Peninsula à Burlingame, en Californie, le personnel soignant bénéficie de l'assistance d'un nouveau robot de bronchoscopie dévoilé le vendredi 19 avril. Les médecins espèrent que ce robot aidera à produire des diagnostics de cancer du poumon plus sûrs et plus précis.
Le robot est mince, il peut donc atteindre beaucoup plus de branches que nous le pouvons avec nos bronchoscopes actuels. Je vois cela comme, oui, comme l'avenir.
Pour les patients dont les examens ont révélé des signes troublants tels que des nodules, les médecins espèrent pouvoir établir un diagnostic plus précis en trouvant plus facilement ces nodules dans les poumons pour effectuer une biopsie. Le docteur Alexander Zinder a utilisé le nouveau robot de bronchoscopie Ion sur 3 patients. Il espère que la capacité du robot à détecter les nodules difficiles à atteindre contribuera à réduire l'anxiété des patients. Le nouveau robot Ion permettra aux médecins de naviguer dans les poumons avec une carte virtuelle produite à partir du scanner lors d'un dépistage et fournit également une vue en temps réel des poumons lorsque le tube pénètre dans les voies respiratoires.
Nous pouvons insérer des marqueurs pour aider le chirurgien à couper moins de poumons que nous le ferions traditionnellement. Il se peut qu'il y ait ou non à l'avenir des moyens de traiter le cancer du poumon de l'intérieur sans avoir à soumettre les patients à une radiothérapie ou à une intervention chirurgicale.
Le robot surveille également les bords des poumons, offrant ainsi aux médecins une plage de distance permettant d'utiliser l'aiguille pour la biopsie en toute sécurité sans provoquer des dommages pulmonaires.
L'avion peut être stressant pour de nombreux voyageurs. L'aéroport international d'Istanbul a une solution. Des chiens, tout simplement. Comme l'explique Nanit Talani. Regardez.
Alita et Cookie ne sont pas des chiens ordinaires. Ce sont des chiens thérapeutiques. Ils sont prêts pour une nouvelle journée de travail. Leur tâche consiste à calmer les nerfs des passagers anxieux à l'aéroport d'Istanbul. Ali Batiyari, un passager iranien de 31 ans qui rentre d'Istanbul à Téhéran, explique ce qu'il ressent lorsqu'il caresse les chiens thérapeutiques.
C'est génial. Quand on les voit, l'anxiété disparaît, c'est sûr. Ah, notre chien nous manque à la maison.
L'entraîneur Volkan Arslan explique la qualité et la durée du dressage des chiens nécessaires pour que ces animaux deviennent suffisamment amicaux et que les passagers puissent jouer avec eux.
Il s'agit d'un processus d'un an. Nos chiens ont subi un entraînement sérieux. L'objectif de ce projet est le suivant. Nous accueillons des millions d'invités du monde entier et nous avons lancé le projet de chiens de thérapie pour offrir à nos invités une meilleure expérience de vol et réduire leur stress éventuel. Au cours des 2 derniers mois, nous avons travaillé activement sur le terrain avec nos nouveaux collègues.
Ce concept a vu le jour aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. Des dizaines d'aéroports américains ont mis en place de tels programmes. Une passagère russe de 23 ans qui s'apprête à prendre un vol pour Moscou depuis l'aéroport d'Istanbul explique ce qu'elle ressent en caressant le chien de thérapie.
C'est si bon, si bon. Je ressens vraiment la thérapie.
Le dresseur turc de 46 ans nous en dit plus sur la façon dont les chiens sont préparés pour ce travail important.
Les heures de travail des chiens sont planifiées de manière à ce qu'ils ne passent pas plus de 3 heures par jour avec les passagers. Le chien qui travaille aujourd'hui se repose le lendemain. Le lendemain, un autre chien part sur le terrain et après avoir travaillé pendant 3 heures et terminé son service, nous retournons à notre camp.
Avec quelques 76 millions de passagers qui transitent par l'aéroport d'Istanbul depuis 2023, l'équipe de chiens sera certainement occupée à rendre les voyageurs heureux et paisibles. C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons discuté avec le docteur Timothée Nkeba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province de Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.